l'heure où il est 9h30, USA Today, nos experts sont en place. John Plassard depuis les bureaux de Mirabeau, bonjour John, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Et Étienne Braque bien sûr depuis la tour Euronext, bonjour Étienne. Comment Wall Street, Étienne, se réveille-t-il?
Bonjour à tous. Eh bien écoutez, c'est une séance dans le vert pour l'instant, une hausse timide après une séance compliquée hier, puisque malgré l'envolée de 9% de Nvidia, le Nasdaq a clôturé dans le rouge. Le Dow Jones a même vécu sa pire séance hier depuis mars 2023 avec une baisse de 1,5%. Et là aujourd'hui, l'indice Dow Jones reprend 0,2% à 39 135 points. Vous avez le S&P 500 qui est toujours en deçà des 5300 points à 5285 points, malgré une hausse de 0,3%, plus 0,3% également pour l'indice Nasdaq, Nvidia qui fait toujours l'actualité. Aujourd'hui, nous en parlerons dans un instant avec John Plassard. Pour l'instant, sur l'ensemble de la semaine, vous avez un S&P 500 qui cède 0,5%. Le Dow Jones perd un peu plus de 2%. C'est sa pire semaine de l'année. Quand le Nasdaq, de son côté, prend 0,3% sur l'ensemble de la semaine. Du côté des valeurs à suivre également, aujourd'hui, vous avez Workday qui est spécialiste du logiciel, notamment pour les entreprises. Titre qui perd 12% avec des prévisions qui peinent à convaincre. Et puis, un dernier d'Apple qui se distingue aujourd'hui, qui permet à l'indice Nasdaq de surperformer aujourd'hui avec une hausse de plus d'1% d'Apple après avoir perdu 2% hier. Titre qui s'échange actuellement à 188 $ et donc une ouverture en légère hausse à Wall Street avant un week-end de 3 jours puisqu'il n'y aura pas de cotation lundi aux États-Unis.
C'est un jour férié à venir lundi effectivement aux États-Unis, mais on sera quand même là, USA Today avec John lundi. Voilà, on a pris rendez-vous John, on sera là malgré tout pour parler avec peut-être un peu plus de hauteur et de distance des enjeux en ce moment autour des marchés américains. Les indicateurs du jour, vous avez notamment repéré, John, les commandes de biens durables aujourd'hui aux États-Unis.
Oui, commandes de biens durables qui se passent toujours assez bien. On est à plus 0,7% en avril, alors que le consensus pariait sur une baisse de 0,8%. Le mois précédent, on était à plus 0,8%, mais qui a été fortement révisé à la baisse puisqu'on était à 2,6%. C'est quand même le troisième mois consécutif de hausse. Et ce qui est très intéressant de noter, Guillaume, c'est que les commandes de biens d'équipement non militaires, qui est un indicateur étroitement surveillé du plan des dépenses des entreprises, eh bien, ont augmenté de 0,3% d'avril après une baisse de 0,1% en mars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, tous ces chiffres aujourd'hui? C'est que l'économie américaine va toujours assez bien et ça nous a été prouvé hier par les PMI manufacturiers et des services, ce qui a fait dévisser le marché hier soir.
Effectivement, cette économie américaine sacrément résiliente, sacrément dynamique, et on a un 10 ans américain à 4,5 sur un plus haut de 10 jours désormais, le 10 ans américain. On en parlera de voilà, ce retour des petites tensions obligataires et des anticipations de baisse de taux qui se réduisent à nouveau pour la suite de l'année du côté des États-Unis. Et puis, il faut aussi suivre aujourd'hui, Étienne, l'immobilier commercial américain qui vient aussi perturber le moral des investisseurs.
En effet, vous parliez du 10 ans américain, c'est lié la remontée des taux avec des pertes importantes pour le secteur immobilier, avec forcément une remontée des taux qui fait des dégâts, John Plassard.
Oui, énormément. On savait que l'immobilier était évidemment à la traîne depuis un certain temps à cause de, évidemment, la pandémie, le travail à domicile, etc. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis, tenez-vous bien, la crise financière, la crise de 2008, les investisseurs en obligations de premier ordre adossés à des créances immobilières commerciales commence à subir des pertes. Alors c'est la banque Barclays qui relève que les acheteurs de la partie AAA, vous savez, la meilleure partie d'une obligation de 308 millions de dollars adossée à l'hypothèque d'un immeuble au centre de Manhattan, donc théoriquement il n'y a pas de risque, eh bien on récupérait moins de 3/4 de leur investissement initial, puisque le prêt a été vendu avec une très forte décote. Donc même sur du triple A où vous êtes censé recouvrer 100% de votre prêt, eh bien ici c'est 3/4. Et la banque Barclays rappelle aussi ici que les gens qui avaient leur prêt sur des tranches qui étaient inférieures, eh bien ont tout perdu ou quasiment. Donc on voit ici que sur l'immobilier commercial, on pensait que le pire était passé, mais pas du tout, ça va encore mal aux États-Unis.
Oui, ce signal sur l'immobilier commercial qu'il faut surtout pas arrêter de suivre, effectivement. Wall Street vient d'ouvrir, c'était il y a 6 minutes et ça se passe bien, on est en hausse sur les trois indices américains de 0,3%, quels que soient les indices, tous progressent en ce moment de 0,3%. On va parler bien sûr d'Nvidia au lendemain de son incroyable ascension, son incroyable envolée encore hier. Que fait Nvidia aujourd'hui? Réponse dans un instant. Mais d'abord, la campagne américaine, John. On est à 165 jours de la présidentielle. Nikki Haley a fini par craquer John. Elle annonce que finalement, malgré tout ce qu'elle avait pu dire au cœur de sa campagne des primaires républicaines, finalement, elle votera bien pour Donald Trump.
Et sa prise de parole était très très attendue puisque c'est la première intervention publique depuis qu'elle s'est retirée, comme vous l'avez dit, de la course présidentielle en mars. Et elle a dit, tenez-vous bien, que ses priorités en tant qu'électrice américaine étaient de soutenir un président, tenez-vous bien, qui soutiendrait les alliés de l'Amérique, demanderait des comptes aux ennemis, sécuriserait les frontières, soutiendrait le capitalisme et la liberté et qui réduirait la dette nationale américaine. Tout ça, eh bien, ce serait potentiellement Trump. Elle dit que Trump n'est pas parfait, mais qu'elle voterait pour lui. Pourquoi ? Parce que Biden a été, je le cite, une catastrophe pour les États-Unis. Donc on voit ici que, bien évidemment, Nikki Haley suit le président, le potentiel prochain président, donc Donald Trump. Faire très attention ici parce que potentiellement, eh bien, une partie de l'électorat de Nikki Haley pourrait aller vers les démocrates. On sait qu'elle était celle qui était la moins dure dans le camp républicain. Donc il y a une interrogation à savoir. Qu'est-ce que vont faire les électeurs de Nikki Haley ?
Effectivement, on va suivre tout ça grâce à vous, ce point quotidien sur la campagne électorale américaine. Et prochain épisode lundi, hein, puisqu'on sera ensemble lundi. USA Today sera bien ouvert lundi, même si les marchés américains, eux, seront fermés. Ce sera un très long week-end aux États-Unis. Hier, Étienne, Nvidia a fait des étincelles sur le marché américain. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Eh bien, la hausse se poursuit avec un nouveau record qui est touché pour Nvidia grâce à une hausse de 0,3% à l'instant, toujours au-delà des 1000 dollars Nvidia. John Plassard, malgré une mauvaise nouvelle aujourd'hui, notamment sur le marché chinois.
Ouais, exactement. On pensait que, évidemment, on pourrait avoir quelques prises de bénéfices, mais on a eu des informations, alors qui doivent bien évidemment être confirmées, mais que la puce destinée à l'intelligence artificielle conçue par Nvidia pour le marché chinois, je vous rappelle qu'ils font des puces qui sont moins performantes pour le marché chinois, eh bien, ferait un début en demi-teinte sous fond d'offres excédentaires qui a contraint le groupe de proposer son produit à un prix inférieur au concurrent chinois qui est Huawei. Donc ici, c'est la première fois qu'on entend une demi-mauvaise nouvelle, je dirais, mais ça n'impacte toujours pas le cours de bourse de Nvidia.
Oui, sur des nouveaux plus historiques, donc ce cours de bourse encore aujourd'hui au firmament qui vient tutoyer les étoiles, un peu plus près des étoiles. Aujourd'hui, Nvidia, on va suivre à nouveau cette valeur au cœur de BFM Bourse tout au long de l'après-midi. L'univers des semi-conducteurs aussi, ici en Europe, connecté cet univers, bien sûr, de très très près à l'intelligence artificielle. Mais la vie, c'est aussi des burgers, surtout aux États-Unis, John. On a une véritable guerre des burgers là qui est en train de se mettre en place. Il faut nous expliquer. Il y a quelques jours, vous nous parliez de McDonald's qui annonçait un menu à 5 dollars, 5 petits dollars avec des petites frites à l'intérieur à partir de juin pour voilà, combattre effectivement les effets de l'inflation pour les ménages. Un menu low cost pour redevenir accessible au très très grand public. Le problème, c'est que McDonald's fait des émules et n'est plus seul à faire ce genre d'offres, John.
Oui, et on se souvient que l'annonce sur McDonald's avait fait saliver Étienne. Eh bien, tenez-vous bien, Burger King va faire aussi un menu à 5 dollars et va le proposer avant juin, c'est-à-dire dans les jours qui arrivent. Et tenez-vous bien, pour 5 dollars, c'est-à-dire moins de 5 euros, vous allez avoir un choix entre 3 sandwichs avec des nuggets, des frites et une boisson. Et ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que Burger King a déclaré que cette promotion durerait plusieurs mois. On se souvient que McDonald's avait dit que ça ne durait que le mois de juin. Et ici, on est dans une situation où, bien évidemment, les Américains, face à l'inflation, eh bien, font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Et il y a un sondage qui vient d'être publié qui dit que 78% des Américains disent que la restauration rapide est un luxe parce qu'elle est devenue trop chère. La restauration rapide, pour près de 80% des Américains, est un luxe, tenez-vous bien. Et donc, bien évidemment, c'est l'inflation.
La guerre des burgers est donc lancée après le menu à 5 dollars de McDonald's. Avant même le menu de McDonald's, il y aura celui de Burger King donc, qui arrivera un petit peu avant. On imagine que vous êtes heureux, effectivement, Étienne, parce que le public de BFM Bourse est au courant. Étienne est un fan de burgers. Vous pouvez pas voir Étienne sans le voir en train de grignoter un burger ou de regarder un menu burger. Enfin, c'est absolument insensé.
Je devrais venir plus souvent à la rédaction, mon cher Guillaume. Vous me connaissez mal, apparemment.
Étienne qui circule aussi en Tesla, bien sûr, pour nous rejoindre le soir depuis la Défense, la Tour Euronext, c'est au cœur de la rédaction. Et ce type Tesla, en tout cas, que nous tous, on suit très très près, avec une bonne raison de le faire supplémentaire aujourd'hui, Étienne.
Oui, le titre Tesla qui prend un peu plus d'1% aujourd'hui, au-delà des $560, avec pourtant une mauvaise nouvelle, John Plassard, une nouvelle fois en Chine. Il y a deux minutes, on parlait de la Chine avec Nvidia. Là aussi, c'est compliqué pour Tesla qui revoit à la baisse ses prévisions de production.
Exactement, de son modèle Y, d'un pourcentage de deux chiffres dans son usine de Shanghai. Ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'on a eu les données de l'association chinoise des constructeurs automobiles qui montrent que la production du modèle Y en Chine s'élevait à 50 000 unités en mars, à 36 000 unités en avril, soit une baisse respective de 18% et de 33% sur un an. 33% de production au moins en avril pour Tesla dans l'usine de Shanghai. Donc évidemment, on sait une des raisons, c'est la compétition et la concurrence effrénée des groupes chinois qui vendent évidemment des modèles un peu moins chers. Mais ici, évidemment, à chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle, eh bien l'action monte. Et c'est le contraire lorsqu'on a une bonne nouvelle.
Merci beaucoup à tous les deux. USA Today, John Plassard, donc, qui sera avec nous à nouveau lundi depuis les bureaux de Mirabeau. Bon week-end, John. Profitez bien. Étienne Braque aussi nous accompagne depuis la Tour Euronext tout au long de l'après-midi.